Et le journal vous est présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à tous. Jeffrey Epstein a-t-il été correctement surveillé durant sa détention? C'est l'une des très nombreuses questions qui se posent après le décès samedi dernier de ce milliardaire américain accusé d'avoir réduit en esclavage sexuel des dizaines de femmes mineures entre 2002 et 2005. Il était incarcéré depuis le mois de juillet. Nous entendrons dans ce journal la correspondance de Gregory Phillips à Washington. C'est une véritable marée noire de manifestants qui a envahi l'aéroport de Hong Kong. Quelques 5000 personnes se sont installées dans le hall des arrivées pour dénoncer les violences policières et demander davantage de démocratie. De son côté, la compagnie d'aviation Cathay Pacific Airlines menace de licencier ses employés s'ils soutiennent les manifestations. Reportage à suivre, signé Juliette G. Et puis nous reviendrons aussi sur l'agression à Paris du porte-parole d'une association LGBT tunisienne. Nidal Belarbi a obtenu l'asile politique en France après avoir été condamné pour homosexualité en Tunisie. Il a été frappé en pleine rue par plusieurs personnes. Hugo Charpentier nous en dira plus. Cette affaire est pour le moment une suite de questions sans réponse. Il s'agit bien sûr de l'affaire Jeffrey Epstein. Ce riche financier américain, membre de la Jet Set, a été inculpé le 8 juillet dernier pour exploitation sexuelle de mineurs et association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineurs. L'enquête américaine met en lumière des liens avec la France. De quoi s'agit-il précisément? Pour l'instant, pas de réponse. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, demandent l'ouverture d'une enquête en France pour en savoir plus. Selon le parquet de Paris, des premières vérifications sont actuellement en cours afin de déterminer si une enquête doit être ouverte sur le territoire français. De son côté, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, rappelle qu'il n'appartient pas au gouvernement de décider des poursuites. Autre question, de quoi Jeffrey Epstein est-il décédé samedi dernier en prison? Les résultats de l'autopsie sont toujours attendus pour le moment. Et puis cette troisième question, toutes les règles prévues pour sa surveillance en détention ont-elles bien été respectées? Élément de réponse avec notre correspondant à Washington, Gregory Phillips.
Malgré une première tentative de suicide le 23 juillet, Jeffrey Epstein ne faisait plus l'objet d'une surveillance particulière dans sa cellule de la prison fédérale de Manhattan, pourtant l'une des plus sécurisées du pays. C'est là notamment qu'était incarcéré jusqu'à son procès le narcotrafiquant mexicain El Chapo. Cette surveillance d'un détenu pourtant suicidaire a été levée quelques heures plus tôt pour une raison indéterminée. Les gardiens devaient toutefois contrôler ce détenu toutes les 30 minutes, mais selon plusieurs médias américains, la procédure n'a pas été respectée. Autre fait accablant, Epstein était seul dans sa cellule quand il a apparemment tenté de mettre fin à ses jours. Son codétenu avait été extrait. Normalement, Jeffrey Epstein n'aurait jamais dû être ainsi isolé. La presse américaine enfin rapporte que les surveillants du Metropolitan Correctional Center sont en sous-effectif notoire et travaillent parfois jusqu'à 60 ou 70 heures par semaine pour remplir difficilement leur mission. Tous ces éléments mis bout à bout alimentent encore un peu plus les théories complotistes relayées notamment ce week-end par Donald Trump, alors que les médecins légistes new-yorkais disent qu'ils ont encore besoin d'informations et de temps supplémentaires pour dévoiler les résultats de l'autopsie pratiquée hier, après ce que la justice américaine continue de qualifier de suicide apparent.
Le ministre de la Justice américain William Barr dénonce ce soir de graves irrégularités dans la prison où est mort Epstein. Aux États-Unis, toujours, le gouvernement de Donald Trump annonce aujourd'hui qu'il refusera désormais la nationalité américaine aux immigrants qui bénéficient d'aides publiques. Selon une réglementation publiée aujourd'hui par la Maison-Blanche, ceux qui seront jugés susceptibles de devenir, je cite, « des charges pour la société » se verront refuser l'accès au territoire et ceux qui sont déjà aux États-Unis se verront refuser la carte verte, le fameux permis de séjour américain. Cette nouvelle réglementation vise les immigrants démunis qui bénéficient à leur arrivée sur le territoire américain pendant une période limitée d'allocation logement ou de bons alimentaires. Ce lundi 12 août 2019 marque une date importante dans l'histoire de cette mobilisation qui se déroule en ce moment à Hong Kong. L'aéroport de l'île a pris aujourd'hui la décision rarissime d'annuler tous ses vols, conséquence de la présence de quelques 5000 manifestants qui ont envahi le hall des arrivées pour protester contre les violences policières et demander davantage de démocratie. Les autorités de Pékin haussent le ton, elles estiment que la crise a atteint un stade critique et pour la première fois, elles emploient le terme de terrorisme. De son côté, la compagnie d'aviation Cathay Pacific Airlines menace de licencier ses employés s'ils soutiennent les manifestations contre le gouvernement. Cette mise en garde intervient sous pression de la Chine qui menace de représailles les entreprises soupçonnées d'être pro-démocratie. Sur place, les précisions de notre correspondante Juliette G.
Il y aura des sanctions disciplinaires pour les employés qui prennent part aux manifestations illégales, des sanctions qui pourront aller jusqu'à la rupture du contrat de travail. Voilà un extrait du mail que Kate, hôtesse de l'air, a reçu ce matin de sa direction. Pour elle, c'est surtout un coup de com.
J'ai été surprise car la compagnie ne devrait pas se mêler de ce que l'on fait pendant notre temps libre. Je pense que l'entreprise est sous pression de la Chine. C'est pour ça qu'elle insiste auprès de nous. Mais personnellement, je n'ai pas peur car de toute façon, la majorité d'entre nous a déjà participé à une manifestation ces derniers mois.
Le président de l'entreprise hongkongaise a d'abord soutenu ses employés, mais depuis que l'un de ses pilotes a été arrêté dans une manifestation violente, Cathay Pacific se plie aux exigences de Pékin, Kate ne va pas arrêter de manifester pour autant.
Bien sûr que je ne veux pas perdre mon travail, mais je ne pense pas qu'ils vont vraiment me licencier si je participe à une manifestation. Et s'ils font ça, je pense qu'il y aura une réaction massive de la part de la société.
Cet après-midi, 5000 manifestants ont participé à un sit-in à l'aéroport de Hong Kong. Aucun avion n'a décollé ni atterri pendant 4 heures.
Juliette J. Le calme semble revenir petit à petit à Tripoli en Libye. Aujourd'hui, les vols ont pu reprendre à l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale libyenne. L'activité de l'aéroport avait été suspendue après des tirs hier dans le secteur. Ces tirs étaient venus rompre une trêve conclue entre les forces pro-gouvernementales et les forces rebelles dirigées par le maréchal Haftar. Les deux groupes belligérants s'étaient mutuellement accusés d'avoir rompu cette trêve réclamée par l'ONU. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa remporte une bataille judiciaire qui l'opposait à la médiatrice sud-africaine. Celle-ci accusait dans un rapport le président de mensonge et demandait sa censure par le Parlement. Les faits remontent à 2017, alors qu'il faisait campagne pour la présidence de son parti, le Congrès national africain. Cyril Ramaphosa avait dû se justifier à propos d'un virement d'argent équivalent à 32 000 euros fait par un groupe industriel. À l'époque, il avait assuré qu'il s'agissait d'un paiement pour un travail réalisé par son fils, puis il avait reconnu un peu plus tard qu'il s'agissait en fait d'une donation. Il avait alors plaidé la bonne foi et s'était engagé à rembourser les fonds de campagne. Aujourd'hui, le tribunal a donc suspendu l'ordonnance de la médiatrice, ce qui aura pour effet d'éviter une procédure de censure. Au Portugal, le bras de fer se poursuit entre le gouvernement socialiste et les chauffeurs de camions citernes qui sont en grève. Ils demandent des augmentations de salaire. À la mi-journée, environ 15% des quelques 3000 stations-service du pays étaient totalement à sec et autant d'entre elles manquaient au moins d'un type de carburant. Le chef du gouvernement, Antonio Costa, a affirmé qu'il n'hésiterait pas à réquisitionner des chauffeurs grévistes si la situation l'exigeait. La gendarmerie portugaise a escorté ce matin des premiers convois de camions-citernes pour ravitailler justement des centaines de stations-service déjà à sec. Sur place, notre correspondante Marilyn Darcy.
Les premiers camions-citernes qui ont quitté la raffinerie de Matosinhos dans le nord du Portugal ont été escortés par la gendarmerie. Une mesure de précaution et d'avertissement afin que les services minimums imposés aux conducteurs de camions-citernes soient respectés. Le gouvernement a réquisitionné et formé 500 policiers et gendarmes pour transporter le carburant si le mouvement se durcissait. L'un des deux syndicats impliqués dans le mouvement s'est engagé à respecter le service minimum. Échaudé par la première grève de carburant à Paris, les Portugais ont pris leurs précautions et fait le plein des réservoirs il y a plusieurs jours. À partir de ce 12 août, c'est le rationnement. 15 litres si on possède un véhicule prioritaire lié à la santé, à la sécurité ou à l'alimentaire. 25 litres pour le consommateur en général. Tant qu'il y aura de l'essence, la grève a une durée illimitée.
Merci Marilyn Darcy pour vos précisions. En Argentine, le président Macri est en grosse difficulté après une défaite cuisante aux élections primaires de ce week-end. Des primaires qui dans le pays font office en quelque sorte de répétition générale avant la présidentielle qui aura lieu en octobre prochain. Arrivé en tête, le binôme de centre-gauche Alberto Fernandez et Cristina Kirchner avec 47,7% des votes. Et derrière, le chef de l'État en exercice, donc Mauricio Macri, rassemble 32% d'électeurs. Les sondages annonçaient une légère différence entre les deux adversaires. Finalement, cet écart de 15 points a donc surpris. Le gouvernement enchaîne les réunions de crise et les marchés financiers s'affolent. Caroline Vic.
Ces primaires ont des airs de premier tour d'élection présidentielle. Même s'il s'agit d'une préélection, la différence de presque 16 points entre les deux premiers candidats montre nettement que les Argentins ont massivement voté pour un changement dans un pays en crise. Endettement après le retour du FMI, une dévaluation de 300% en 4 ans, une inflation annoncée pour cette année de près de 45%, licenciement, chômage et une pauvreté de 33%. Malgré la volonté de Macri de créer un climat positif pour ne pas altérer la confiance des marchés, à l'ouverture l'ouverture des marchés financiers ce matin, les actions se sont écroulées de 35% et le peso a dévalué de 20% en quelques minutes. En une heure, le dollar était passé de 46 à 64 pesos. Le président est réuni depuis tôt ce matin avec son cabinet et certains acteurs politiques et financiers du pays. Son défi principal sera de pouvoir gouverner au moins jusqu'au 27 octobre, date du premier tour de la présidentielle, dans un contexte économique profondément instable et sachant qu'un Argentin sur trois ne le soutient pas.
Et c'était donc notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic. En Méditerranée, ce sont toujours quelques 400 migrants qui attendent de débarquer dans un port européen. Aujourd'hui, le navire humanitaire Ocean Viking a secouru 105 migrants supplémentaires dans les eaux internationales au large de la Libye. Mais aucune solution n'est en vue pour le moment. Ces migrants viennent, pour beaucoup d'entre eux, d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique de l'Ouest. Ils sont en état d'extrême fatigue, rappellent les équipages. Un quart d'entre eux sont des mineurs. Leur part ne cesse de s'accroître. Et beaucoup d'entre eux sont des mineurs isolés. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
En France, même si le droit a évolué, la prise en charge reste un défi pour les départements.
Oui, d'autant que le nombre de mineurs est toujours compliqué à évaluer. Dominique Bussereau, le président de l'Association des départements de France, cite le chiffre de 40 000 migrants mineurs non accompagnés. Ce serait deux fois moins selon la protection judiciaire de la jeunesse. Le défi, vu des départements, est triple. L'évaluation réelle des mineurs, le financement et les structures d'hébergement. Aujourd'hui, certains départements sont toujours alloués des chambres d'hôtel lors de la mise à l'abri qui précède l'évaluation de la minorité et les places en foyer sont insuffisantes. Le financement, pour le moment, l'État est accusé de ne pas tenir ses promesses, à savoir une prise en charge totale. Ce serait en réalité un peu plus de 10% du coût. Au total, le coût est de 50 000 euros par an et par mineur, voire plus. En tout, 2 milliards d'euros par an, calcule l'Association des départements de France. C'est évidemment aussi et d'abord un défi humain et sur ce point le système connaît des ratés, surtout dans certains départements plutôt frileux, exemple les Alpes-Maritimes. David Nakache de l'association Tous Citoyens regrette que le premier visage que rencontrent ces jeunes soit celui des policiers.
Ils ont peur des armes, ils ont peur de la police, ils ont peur de tout le monde, ils préfèrent fuir plutôt que d'aller dans un commissariat. Et ils ne pensent pas qu'ils puissent là avoir un droit qui soit validé. Trop de jeunes qui vont végéter pendant 3 mois, 4 mois dans un foyer où rien ne va se passer. Ils ne seront pas inscrits à l'école, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe et ils vont partir. Donc pour les quelques jeunes que nous aidons, il y en a beaucoup, beaucoup plus malheureusement qui sont perdus dans la nature.
Autre reproche adressé au département, notamment au département qui prévoit de mettre en œuvre le fichier biométrique de jeunes mineurs très contesté. Est-on encore dans la protection sociale à l'enfance ou dans la lutte contre l'immigration? C'est évidemment toute l'ambiguïté du système.
Merci à vous Nicolas Ballu. À Paris, le porte-parole d'une association LGBT tunisienne a été agressé en pleine rue. Cela s'est passé la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi. Nidal Belarbi, qui avait été en Tunisie condamné pour homosexualité, a obtenu l'asile politique en France. Il a été attaqué donc dans le 11e arrondissement de la capitale, frappé par au moins 3 hommes alors qu'il rentrait chez lui. Les précisions d'Hugo Charpentier.
De cette pluie de coups donnés à main nue, Nidal Belarbi en garde aujourd'hui des traces toujours bien visibles avec des contusions au niveau du cou et du visage. Sorti de l'hôpital, le porte-parole de l'association LGBT tunisienne Shams s'est vu prescrire 4 jours d'ITT. C'est l'homme qui l'héberge actuellement qui a pu alerter le secours. Il s'agit de Louis-Georges Tain, fondateur de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie.
J'ai été réveillé vers 1h du matin par Nidal Belarbi. Je l'ai vu en état de choc. J'ai dû appeler les pompiers, la police pour lui porter secours.
Parmi ses agresseurs, Nidal Belarbi reconnaît un homme, un individu qui l'avait déjà attaqué en 2013. C'était en Tunisie.
Je trouve que ce monsieur est en France en ce moment. Et en voyant monsieur Belarbi passer, cet agresseur a reconnu sa victime et a décidé de récidiver, si j'ose dire. D'ailleurs, ce monsieur est particulièrement acharné puisque lorsque j'accompagnais monsieur Belarbi dans l'ambulance avec les pompiers, nous avons vu quelqu'un entrer dans l'ambulance, essayer de forcer l'entrée. Il a fallu que les pompiers le sortent de l'ambulance pour échapper à cette nouvelle tentative.
Pour Louis-Georges Tain, cet acharnement violent pose la question du suivi des réfugiés politiques en France.
Car aujourd'hui, par exemple, M. Belarbi, il a le droit d'asile, mais il n'est pas accueilli, il n'a pas de logement. C'est précisément pour cela que je l'héberge en attendant. Or, il ne peut plus être chez moi puisque son agresseur travaille à quelques mètres de notre appartement. Si on veut vraiment un asile digne de ce nom, digne de ce pays qui prétend être le pays des droits de l'homme, non, il faut aller plus loin dans l'accueil des réfugiés.
Pour le moment, cette agression n'a donné lieu à aucune interpellation, mais ça ne serait tardé. La police connaît l'identité des agresseurs.
Demain matin, il y a des risques d'averses dans le nord du pays, depuis la Bretagne jusqu'aux Ardennes, en passant par les Hauts-de-France. Partout ailleurs, ce sera du beau temps. Côté température, demain matin, ça part de 15 dans le Pas-de-Calais et ça monte jusqu'à 28 dans les Alpes-Maritimes. Cette édition a été préparée avec Jean-François Braun. Elle a été réalisée à la technique par Jean-Guilain Meige.